conditions de travail et la façon qu'on gère les médecins au Québec.
Ah non, c'est certain. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
On se reparle un petit peu plus tard pour vice-versa. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là. FM 93. L'avant-match avec Dan Pou.
Les Kings de Los Angeles de 2012 puis les Predators de l'année dernière, oui, sont rentrés. Ces deux équipes-là sont entrées en série comme huitième de leur conférence, mais c'est de bonnes équipes à la base. C'est pas juste on rentre en série sur la fesse puis arrivera ce qui arrivera. Si t'es pas de taille toute l'année, tu seras pas plus de taille en série.
L'avant-match avec Dan Pou, lundi au vendredi, 18h, au FM 93, la force d'une équipe.
L'avant-match est présenté par les pizzas festins de Domino's Pizza, la steak et fromage Philly, l'extravaganza, 12 pouces de bonheur à seulement 10,99$. Commandez sur dominos.ca.
Les Aliments Couture, une entreprise familiale qui produit les excellents cretons couture avec la même recette traditionnelle depuis plus de 80 ans. Fait à la main ici à Québec avec des produits de première qualité, ils ont le même bon goût d'antan. Les cretons couture en vente dans tous les supermarchés de la région de Québec.
Tu penses encore que c'est le Père Noël qui donne des cadeaux? J'ai des petites nouvelles pour toi. C'est la Maison Chrysler qui donne des cadeaux. À l'achat d'un véhicule neuf ou usagé, t'as rien à payer pendant 90 jours et tu reçois un chèque cadeau jusqu'à 9 500$. Pour te gâter. La Maison Chrysler, un détour payant.
Pour vos bottes de sécurité, choisissez Royer, la marque approuvée par Georges Saint-Pierre. Royer, fier fabricant canadien de bottes et de souliers de travail depuis 1934. Pour trouver un détaillant près de chez vous, visitez royer.com.
Mais l'hiver, faut qu'il résorbe. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres.
Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec.
J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher.
Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40$ par année. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec.
On vous sert depuis 40 ans dans Saint-Sauveur, au marché Bonichois. En ce moment, nous venons en aide à notre voisine, l'école Sacré-Cœur. Remettez-nous vos canettes vides et nous doublerons l'offre pour l'école. Nous serons ouverts le lendemain de Noël dès 8h30. Votre Bonichois Saint-Sauveur sur Tachereau, coin Saint-Ambroise.
2017 est presque terminé, mais vous pouvez profiter d'une offre incroyable sur le Ford F-150 2018, le plus compétent à ce jour. Traversez les situations difficiles avec les meilleures capacités de remorquage et de chargement de la catégorie. En ce moment, obtenez 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les F-159 sélectionnés. De plus, on paie les trois premiers mois jusqu'à 1 500$ au total. Peu importe le défi, amenez-en avec le F-150 2018. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca.
Entrevue, débat, FM 93, la meilleure radio d'actualité à Québec. Samedi et dimanche matin dès 7h au FM 93, c'est Que Québec se lève avec Élisabeth Crête.
Que Québec se lève au FM 93.
Bon dimanche ensoleillé à tous. Nous sommes le 17 décembre. Bienvenue dans Que Québec se lève.
Il y a une campagne GoFundMe qui a été mise sur pied pour aider la famille de Johan, cet enfant de 4 ans qui a été happé mortellement par sa mère vendredi. Et je vous parle aussi de coups de feu qui ont été tirés dans le quartier Limoilou dans la nuit de vendredi à samedi.
Le Canadien s'incline 3-0 dans le match plein air de la classique LNH 100 devant les Sénateurs à Ottawa. Et c'est le traditionnel dimanche dans la NFL avec, entre autres, un duel de titans entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh.
Un très beau samedi pour les activités à l'extérieur. On prévoit un maximum à moins 14 avec du beau soleil dans le ciel. Ce soir et cette nuit, ce sera un peu plus nuageux avec le minimum fixé à moins 20. Et demain lundi, alternance soleil-nuage avec moins 10, c'est ce qu'on prévoit. Quelques flocons aussi arriveront mardi avec des températures plus chaudes. Ce sera moins 1 mardi prochain. Présentement, à Québec, c'est moins 16 degrés.
La météo présentée par le trio Ford qui paye vos trois premiers mois jusqu'à 1 500$ au total sur les Ford 2017 et 2018 sélectionnés. Visitez Desjardins Autocollection, Desjardins Ford Sainte-Foy ou l'Ange Gardien Ford.
Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
Tout juste avant de passer aux nouvelles, je vais vous parler d'une petite nouvelle que j'ai vue hier dans les journaux et on en reparle un petit peu ce matin. D'après vous, une femme qui boit, est-ce qu'elle est admissible à une greffe de foie?
Non.
De façon éthique, mettons. Est-ce qu'on devrait, est-ce que notre système de santé devrait payer une greffe de foie à une femme qui prend de l'alcool? On sait que
Que oui, là. On devrait, dans le sens que ça dépend de la consommation. Si on interdit. si on fait pas la greffe de foie à quelqu'un qui consomme de l'alcool, on la fera pas à grand monde.
Ben, c'est ça. Je sais pas si est-ce qu'on la fait dans le cas de personnes qui fument.
Écoute, en fait, l'histoire que dont je vous parle, c'est une Inuite de 26 ans. Elle souffre d'une insuffisance hépatique et il y a une espèce de politique d'abstinence d'alcool en Amérique du Nord, en fait, au Canada et ailleurs aussi dans le monde, pas seulement en Amérique du Nord. C'est pas évidemment quelque chose qui est confirmé puis qu'on met en application à tout prix, mais on veut en fait qu'avant qu'on fasse une transplantation de foie, une greffe de foie finalement à quelqu'un, on aimerait que cette personne-là ait été sobre dans les 6 mois précédents parce qu'on s'est rendu compte que c'était très, très fréquent de voir quelqu'un qui venait tout juste de recevoir une greffe de foie recommencer à boire finalement tout de suite après et endommager le foie qu'on venait juste de lui transplanter finalement. Donc, il y a une espèce de politique d'abstinence qui a été mise en application qui n'est pas, évidemment, c'est pas bon à tout prix, là, comme je vous disais. Il peut y avoir des exceptions ici et là, mais on demande à ce que les patients soient sobres pendant au moins 6 mois précédant la greffe de foie. Et cette Inuit-là, elle n'a pas été sobre pendant 6 mois. Donc, on se demande si on va finalement lui donner sa greffe de foie ou pas. Et si on élargit la question un petit peu, parce que bon, il y a les problèmes de foie, effectivement, ça peut être directement lié à l'alcool. Mais si on va un petit peu plus loin, mettons quelqu'un qui souffre d'obésité et qui se fait faire la fameuse opération pour brocher l'estomac pour diminuer. Est-ce qu'on va payer cette opération-là à quelqu'un qui souffre d'obésité, mais qui n'a pas du tout changé ses habitudes alimentaires et qui va recommencer à manger aussi mal qu'il faisait avant et reprendre tout le poids qu'il a perdu finalement?
Ben, c'est parce qu'on ne peut pas prévoir. T'sais, souvent, ils vont leur demander de perdre tant de livres avant la chirurgie. Le médecin va s'assurer, bon, est-ce que cette personne-là va être en mesure de suivre le régime et tout, parce qu'elle a la volonté. Je ne sais pas s'ils ont un traitement ou un suivi psychologique aussi en lien avec ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas moyen de savoir, au même titre que pour le foie, pour les reins, pour...
Pour le cancer, pour mettons, pour les maladies comme le cancer, par exemple, le cancer du poumon. Tu viens juste d'avoir un cancer du poumon, tu en es sorti, disons, on t'a soigné, et tu recommences à fumer ton paquet par jour lendemain.
On ne soignerait plus personne. Non?
Ben non, c'est certain, sauf que ce qu'on a, étant donné que le système de santé est pas gratuit, j'allais dire gratuit, mm-hmm. mais en fait, on paye tous pour ça, mais étant donné que c'est commun et qu'on met tout de notre argent pour financer le système de santé, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité citoyenne, individuelle, à prendre soin de notre santé dans la mesure où c'est toi, Julie, éventuellement, qui va payer pour mon traitement de cancer. Je pense qu'on a une certaine responsabilité aussi à quelque part. On peut pas faire tout ce qu'on veut et c'est certain que si tu as des problèmes de foie au point de nécessiter une greffe de foie, je peux pas croire que tu vas aller remettre ta santé en danger tout de suite après en recommençant à boire autant que tu faisais avant. Et c'est bon pour l'obésité, c'est bon pour la greffe de foie, c'est bon pour les cancers. Alors, on a une espèce de question là, à se poser aussi comme société. Puis je pense que ça fait longtemps, là, on l'a déjà eu le débat dans le passé pour ça. Mais tant que tout le monde paye pour le système de santé, tant que tout le monde paye pour la maladie de son voisin, il me semble qu'on a une petite responsabilité. Et il me semble que quand tu as été malade au point de nécessiter une greffe de foie, tu n'as pas le goût de retomber dans tes vieilles habitudes après. Tu n'as pas une espèce de conscience de ta santé qui est un petit peu...
J'imagine.
Fait que c'est assez. Bien, écoute, cette jeune fille-là, évidemment, elle a 26 ans. Là. J'espère qu'éventuellement, ça se passe en Ontario, le cas dont je vous parle. Bon, à son âge, c'est sûr qu'elle a encore beaucoup d'années devant elle si elle peut vivre en santé. J'espère qu'on va lui donner sa greffe de foie. Tout ça pour dire que j'espère quand même qu'on va l'inscrire pour le registre de dons et qu'elle va recevoir son foie. Et j'espère surtout qu'elle va prendre sa santé en main par la suite. Parce qu'à 26 ans, t'as toute la vie devant toi encore, là. T'as toute la vie pour retrouver une santé. Et ce serait épouvantable qu'on décide de ne pas l'inscrire sur la liste parce qu'elle n'a pas été ça pendant 6 mois. Dans son cas, c'est une question de semaine, là. Si elle n'a pas sa greffe prochainement, elle n'a pas le temps, finalement, de recommencer un autre 6 mois. Mais en tout cas, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Studio à commercial, fm93.com ou par texto au 25226. Et on va aller le débat un petit peu plus large. Vous payez pour le système de santé, vous payez pour les maladies de vos voisins. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une certaine responsabilité individuelle qui soit prise après chaque traitement pour s'assurer que ce qui nous a conduit dans ce mauvais état de santé-là, est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus que ça se reproduise finalement? Alors moi, je pense qu'on devrait, peut-être là, faire un petit peu plus d'action. Tu peux pas commencer à boire.
J'ai la même réflexion que toi. J'ai l'impression seulement que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire là, quand t'es au prix de problèmes comme ceux-là, mais c'est sûr, il me semble que là, tu sais, t'as frappé le mur quand t'as besoin de te faire greffer un foie ou peu importe, là, t'es rendu au bout du rouleau. C'est le temps d'en commencer un nouveau.
Moi, j'ai déjà patienté dans une salle d'attente en pneumologie. Et quand je suis arrivée dans le bureau du pneumologue, ça sentait la cigarette, ça avait juste pas de bon sens. Des gens qui attendaient dans la salle d'attente et qui se crachaient les poumons. Puis quand je suis rentrée dans le bureau, moi, j'étais pas là pour ça, mais je me disais, mon Dieu, que ça doit être décourageant. Parce que le pneumologue, là, il sent comme moi là, que la personne précédente, là, elle sentait le tabac à plein nez, puis que, ben, elle est là pour avoir des soins pour ses poumons, mais en même temps, ça aide pas pantoute, là, parce que ça, c'est une dépendance aussi, là.
Ah, non,
il y a un autre, tu sais, il y a comme un surproblème de santé, là, qui se pointe en même temps, là. Ça fait que ça devient difficile. Tu peux pas y enlever son foie, là, à elle, là, si deux mois plus tard, elle se remet à consommer et tout.
Ah, non,
fait
c'est
ça. Il y a plusieurs niveaux, je dirais, là-dedans. Tu sais, tu peux soigner un problème de santé, là, si t'as un problème de dépendance après, que ce soit l'alcool, la drogue, le tabac, on le sait aussi là, que ça crée une dépendance. Ça joue sur plusieurs tableaux, je trouve.
Ouais. C'est intéressant parce que cette semaine, dans l'émission Bouchard en parle, on a reçu un médecin qui s'appelle le docteur Poirier pour un sujet qui n'a aucun rapport avec de quoi je vous parle présentement, sauf que il nous a amené pendant l'entrevue sur le fait que lui, il a traité des patients qui ont eu des cancers, qui ont eu des maladies cardiaques et puis tout ça, et qui tout de suite après leur traitement ont recommencé à fumer leur paquet, ont recommencé à manger de façon très très mal, et ont recommencé à tout faire finalement ce qu'ils faisaient avant d'avoir la maladie. Et lui, pour lui, il trouve ça inconcevable. Puis je peux comprendre aussi, tu as déployé des efforts comme médecin pour soigner ton patient, puis il fait pas, puis je veux dire, les traitements que tu lui as donnés ont été payés par l'ensemble de la société, puis cette personne-là, après ça, fait ce qu'elle veut, et il recommence dans ses mauvaises habitudes. Ses systèmes de santé étaient privés, ben là, tu fais bien ce que tu veux, c'est toi qui payes pour tes traitements. Mais dans l'optique où c'est tout le monde qui paye pour le système de santé, je pense qu'on a une petite responsabilité quand même à avoir en tant qu'individu et citoyen de ce monde, finalement. On va aller aux nouvelles, Julie?
Oui, je vous parle d'une lettre qui a été co-écrite par des sénateurs du Québec, qui a été publiée dans le courrier du lecteur, dans le journal de Soleil, Le Soleil ce matin. Donc, c'est en soutien à la DV. Il y a 21 sénateurs qui co-signent cette lettre, en appui aux milieux politiques, syndicaux, aux gens d'affaires aussi, qui tentent de convaincre le gouvernement fédéral de non seulement octroyer un contrat au chantier maritime de Lévis, mais aussi de réviser sa stratégie maritime. Et au sujet des employés, les sénateurs interpellent directement le premier ministre Justin Trudeau. Ils disent ceci: dans un contexte où une main-d'œuvre qualifiée comme celle de la DV est très en demande, il est impératif de faire en sorte que ces employés qui possèdent une expertise cruciale ne quittent pas le Québec de manière précipitée et inutile. Et ce que je peux dire aussi, pour la petite histoire, je suis allée couvrir la manifestation ou la grande marche citoyenne qui avait eu lieu il y a deux semaines à Lévis en soutien à la DV. Il y avait le premier ministre et tout qui était là, et j'ai parlé avec des familles, parce que c'est ni plus ni moins des familles, des couples qui travaillent tous les deux au chantier de la DV et qui arrivaient de l'extérieur de la ville de Québec ou de Lévis, qui se sont installés à cet endroit-là et pour qui ça avait quand même un impact considérable de pouvoir aussi se relocaliser dans des métiers aussi pointus parfois que ceux-là. L'opposition martèle que Nathalie Normandeau ne doit pas échapper à la justice, alors que son avocat a déposé une requête pour faire annuler son procès. Le porte-parole péquiste en matière de justice, la porte-parole en fait, c'est Véronique Yvon. Elle prévient que les Québécois ne sauraient tolérer un arrêt des procédures contre l'ancienne ministre libérale qui est accusée de complot, de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Le député de Québec solidaire, Amir Kadir, souligne pour sa part que ce procès pourrait déboucher sur d'autres pistes.
Le procès de Mme Normandeau pourrait faire parler des gens et on pourrait en apprendre davantage sur la responsabilité de Jean Charest, la responsabilité de Jean-Marc Fournier, la responsabilité de Philippe Couillard, parce qu'après tout, c'est des ministres à 100 000 $ tous pour monde.
Il y a une résidence du chemin de Grande Ligne à Saint-Raymond-de-Portneuf qui a été complètement détruite par un incendie cette nuit. C'est un passant qui a alerté les secours, et lorsqu'il est passé devant la maison, les flammes étaient visibles déjà au deuxième étage de la maison. C'est d'ailleurs ce passant-là qui a frappé à la porte pour réveiller une résidente. Les pompiers de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ont été appelés en renfort. Il y a une campagne de sociofinancement qui est lancée pour soutenir la famille du garçon de 4 ans décédé vendredi à Pont-Rouge. Il a été frappé accidentellement par la camionnette que conduisait sa mère. C'est un ami de la famille qui a démarré cette campagne sur GoFundMe pour aider financièrement la maman, donc pour les funérailles, l'enterrement. La campagne qui vise à amasser un montant de 10 000 $ et elle s'est confiée au Journal de Québec. Véronique Leclerc, 27 ans, elle était convaincue que son garçon jouait dans le fond de la cour lorsqu'elle a déplacé son pick-up. Elle avait pris soin de le déneiger convenablement pour avoir une bonne visibilité. Et c'est seulement en débarquant de sa camionnette qu'elle a vu son fils étendu sur le sol, ensanglanté. Elle a tenté en vain de le réanimer. Et puis, ça a brassé à Limoilou dans la nuit de vendredi à samedi. Quand même, il y a des coups de feu qui ont été tirés. Un homme de 30 ans qui a été arrêté devrait être accusé de tentative de meurtre demain au palais de justice. Il aurait atteint par balle un autre homme âgé dans la trentaine, projectile qui se serait logé dans sa jambe. Et s'en est suivi quand même une chasse à l'homme à l'issue de laquelle 6 personnes, dont un mineur, ont été arrêtées. Donc, c'est celui qui aurait appuyé sur la détente qui est toujours détenu. Les autres ont été libérés. C'est survenu devant un immeuble à logement situé à l'intersection de la 3e rue et de la 6e avenue. Et interrogé par le Journal de Québec, il y a des voisins qui ont décrit l'endroit comme un bloc à troubles, donc un bloc à problème. On n'était pas surpris qu'un événement comme celui-là survienne à cet endroit-là.
Merci beaucoup, Julie. Météo, Mélissa?
Belle journée ensoleillée, un peu plus froid que hier. Par contre, on prévoit au maximum moins 14. En ressenti, ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 22. Ce soir et cette nuit, ce sera plus nuageux avec un moins 20 au minimum. Et lundi, on parle de d'une journée qui sera alternant soleil-nuage avec moins 10. Présentement, à Québec, on est à moins 16.
Que Québec se lève. Les sports. FM 93.
Hier soir, c'était le match en plein air canadien-sénateur. On avait de la boxe en plus, on avait du football. Les amateurs de sport, comme je suis, on était gâtés hier soir, assurément. Le Canadien s'est incliné de façon, je te dirais, peu élégante. Ils n'ont pas été dans le coup. 3-0, la victoire des sénateurs. Ils n'ont rien généré offensivement, le Canadien. Et le pointage n'indique pas vraiment l'allure de la rencontre. Les sénateurs ont assez dominé. Mais même à ça, le match présenté à l'extérieur avec la température très froide, comme nous a parlé notre collègue Dan Pou il y a de cela quelques instants, faisait pas chaud, mais ça a vraiment brisé la qualité du jeu. Ça a eu un impact direct. Il y avait, en plus de ça, on avait un peu de difficulté avec la patinoire, la neige, des trous. Non, ça a pas été facile et on n'a pas eu le meilleur spectacle d'hockey. Claude Julien a eu à sa façon bien à lui d'expliquer que ses joueurs ne se sont pas présentés hier pour travailler.
Des matchs comme ça avec les conditions, faut que t'aies une attitude de col bleu. Puis ce soir, on n'avait pas une assez bonne attitude de col bleu.
Je pense que c'est assez clair. Hein? Ils n'ont pas travaillé comme des cols bleus.
L'image est bonne, par exemple.
Absolument. Ça veut tout dire. Et Michel nous a écrit un peu plus tôt ce matin, je la trouve excellente. Les Canadiens avaient une attitude de col bleu, mais de Montréal. Ceux qui se mettent à 12 pour boucher un trou.
Oui, c'est ça.
Je la trouve excellente.
Sauf que les autres sont payés plusieurs millions, par exemple, pour le boucher le trou.
Exact. Puis Jonathan Drouin, lui, il se voyait vraiment jouer en plein air, comme ça, à l'extérieur. Il avait l'air d'un touriste sur le deuxième but. Il a échappé la rondelle devant le filet. Et finalement, Bobby Ryan a compté le deuxième but des sénateurs. Mais lui, il se pensait, là, un dimanche matin, à patinoire extérieure de Saint-Pamphile avec son cousin, là. Mais ouais. Non, c'est un match de la Ligue nationale de hockey qui comptait.
Un petit match sans importance.
C'est ça.
Ouais.
Mais finalement, ça compte. Canadien, une grosse semaine quand même. 3 matchs du côté de l'Ouest canadien. Ça commencera mardi contre les Canucks à Vancouver. Mais également, hier, avait la cérémonie d'avant-match qui était très intéressante. Mais on a aussi déterminé au terme d'un concours quel est le plus grand moment personnel de l'histoire de la Ligue nationale de hockey puisqu'on fêtait le centenaire. Et c'est Mario Lemieux qui s'est vu décerner la palme du plus grand moment dans l'histoire de la Ligue. Son fameux match de 5 buts marqués d'autant de façons. Il avait marqué à force égale à 5 contre 5 en infériorité numérique, en supériorité numérique, un tir de pénalité et un filet désert. Alors Mario Lemieux s'est vu décerner le plus beau moment personnel dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Également, vendredi, le propriétaire des sénateurs Eugene Melnyk a tenu des propos assez vifs, merci, mentionnant qu'il n'exclut pas la possibilité de déménager son équipe si les partisans ne sont pas au rendez-vous. Et Gary Bettman, qui est allé se faire refroidir hier à la place TD, quand même était présent et a tenu à tempérer les propos du proprio des sénateurs Melnyk. Il dit que le club n'est pas déménagé. Tu ne peux pas juste ramasser tes affaires et déménager comme ça. Il faut passer par un processus qui inclut l'approbation du bureau des gouverneurs et M. Gary Bettman. Donc, peu importe un propriétaire dans la Ligue qui veut vendre son équipe ou même la déménager, c'est vraiment Gary Bettman et la Ligue qui doit approuver tout ça. Donc, les sénateurs ne sont pas prêts de quitter Ottawa. J'ai hâte de voir la suite dans ce dossier avec Melnyk, la ville d'Ottawa et l'organisation des sénateurs. Hier, le Québécois David Lemieux tentait de récolter une deuxième ceinture de champion du monde. Il tentait de de devenir le deuxième Québécois à le faire depuis Arturo Tandergatti. Ça s'est pas passé comme il le voulait. Défaite par décision unanime des juges face au champion Billy Joe Saunders. Et ça a été vraiment une balade dans le parc pour Saunders qui n'a pas trop été touché par David Lemieux. Et on verra la suite pour le Québécois David Lemieux. C'est la semaine 15 dans la NFL. C'est le traditionnel dimanche, mais on avait du football également hier soir. Laurent Duvernay-Tardif, le bon docteur, le seul Québécois régulier dans la NFL, et ses Chiefs de Kansas City ont gagné face aux Chargers de Los Angeles 30-13. Également, victoire des Lions de Détroit sur les Bears de Chicago 20-10. Et les Lions, tout comme les Chiefs, restent dans la course aux séries. Et on annonce du très bon football aujourd'hui, entre autres, un duel entre deux Goliaths, les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un duel digne d'un Super Bowl.
Merci beaucoup, Willy.
Showbiz avec Mélissa Paquette.
Le film Le Trip à trois sort en salle le 20 décembre prochain. Et cette semaine, j'ai eu la chance d'aller le visionner. Je peux donc vous en parler. Évidemment, j'ai adoré. Mélissa Desormeaux-Poulin joue le rôle de d'Estelle, une femme de 34 ans qui est une mère de famille qui est dans un environnement vraiment normal, un peu banal. Elle va au travail tous les matins. Elle s'occupe de sa fille qui a des problèmes de comportement à l'école. Elle a aussi son conjoint qui semble pas être plus impliqué que ça dans la relation. Mais bon, tout va bien, ils s'aiment et ça fonctionne bien. Mais à force de côtoyer ses amis, sa sœur qui est plutôt rebelle et ses amis qui sont pas mal plus hautes qu'elle, elle réalise qu'elle a une vie plate, qu'elle est très organisée puis que ça se ressent dans toute sa vie, dans son quotidien en fait. Et puis, ça l'amène à vouloir faire évidemment un trip à trois.
Évidemment.
Comme si tout le monde qui avait une vie plate voulait faire un trip. Ouais, non.
Réflexe de tout le monde, hein, faire ouais.
Un petit trip à trois par-ci, par-là. Mais en tout cas, elle a envie d'en faire un. Et là, elle en parle avec Martin, Matt, tout ça. L'histoire, elle est autour du trip à trois. Ça prend toute la place dans le film et c'est excellent. Je dirais en fait que de voir Mélissa Desormeaux-Poulin dans une comédie, c'est même rafraîchissant parce qu'on a surtout tendance à la voir dans des rôles plus sérieux. Ben ça y va très très bien d'être dans quelque chose d'un peu moins encadré, dans le sens où on la voit rire puis avoir des réflexions un peu drôles. C'est un film qui m'a fait rire du début à la fin, non seulement par la présence de Martin Matt, mais vraiment par celle des amis de Mélissa Desormeaux-Poulin qui incarne le rôle d'Estelle.
Et comment t'as trouvé Martin Matt là-dedans? Parce que bon, Martin Matt, c'est un humoriste, c'est pas un comédien. Mm-hmm. Et je sais que quand on prend des personnalités publiques et qu'on les met dans des films, des fois, ça peut donner de beaux résultats. Mais je me souviens que quand Louis Morissette a sorti le film Le Mirage, la critique qui avait été la plus lue, ou ce que j'avais vu moi, c'était que bon, il était très très bon, mais quand on tombait dans la scène dramatique, là, il l'avait pas pantoute. Là, c'était pas crédible parce que c'est pas un acteur, Louis Morissette. Donc tout était très beau, sauf lorsqu'on tombait dans une scène plus dramatique. Là, Martin Matt, on l'a vu dans Les Beaux Malaises, dans son propre rôle. Là, il joue un rôle qui... C'est pas comme dans Les Beaux Malaises, quand même. Ça reste une comédie. Mais ce qui est crédible, ben, c'est quand même dans le rôle d'un comédien. Là.
Je le trouvais très crédible. Et qu'est-ce qui l'a rendu assurément crédible? C'est le fait qu'on est vraiment dans le type comédie. Son personnage, il l'incarne bien. C'est un personnage qui nous fait rire. J'avoue que au début, c'est difficile de... Tu sais, s'imaginer... On dirait que Martin Matt n'a pas de sexualité.
Oui, ben c'est ça.
Fait que de voir que là, il y a ses jouets sexuels puis qui sont cachés dans une boîte. Au début, tu te dis, ah, c'est bizarre de voir Martin Matt qui a une sexualité pour parler de sexe avec lui. Mais c'est ça. L'avantage, c'est que toute l'action est autour de Mélissa Desormeaux-Poulin. Donc, on retrouve Martin Matt plus dans un côté...
accessoire.
Ouais, accessoire. Fait que c'est moins malaisant. Mais au début, j'ai eu cette réflexion-là. Puis après ça, on s'y habitue vraiment bien. Puis il est excellent dans son rôle. Même que, tu sais, c'est un genre de père de famille là, comique. Là. Ils l'ont pas désincarné, dénaturé au complet.
Mais semble que c'est bon. Rendu une tendance de voir les humoristes au grand écran pour des longs métrages. Louis-José dans De Père en flic, Martin ouais. Matt et compagnie. Les humoristes sont partout, hein, ils font tout.
Ben, au Québec, honnêtement, on est tellement une petite population, mais notre showbiz est très, très grand, sauf qu'on recycle beaucoup, en guillemets, évidemment, là, mais on recycle nos artistes dans différents rôles. Ils peuvent faire de la scène, autant qu'ils peuvent faire de l'animation, d'émissions à la télévision que dans le métrage. Je vous rappelle qu'on va voir Marie-Pierre Morin dans un film bientôt aussi. Là.
Oh, ouais.
Fait que c'est typique de notre showbiz à nous. Là. On se partage un petit peu les rôles pour différents personnages.
Ce qui va vous plaire aussi du film, c'est le fait qu'on explore vraiment les tabous tabous féminins. Mais je pense les tabous dans un couple, la sexualité qui diminue peut-être avec l'arrivée des enfants, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas du genre à aimer entendre les choses crues, de parler de sexualité explicitement, ben, je vous le conseille pas nécessairement parce que vraiment, ça peut être vulgaire à certains moments. Je pense entre autres au personnage d'Anne-Élisabeth Bossé qui est vraiment vulgaire. Elle vient tout juste d'accoucher. Elle vit une genre de dépression postpartum. Puis, tu sais, ça marche pas là, dans sa tête. Mais c'est drôle. C'est bon. Si vous avez envie de passer un moment, c'est 1h30 minutes. Donc, un bref moment à rire, à être déconnecté un peu de la réalité, puis peut-être réussir à trouver certains éléments qui vont coller à votre vie, à vous. Ben, allez voir le Trip à 3. Ça sort donc ce mercredi 20 décembre en salle et je suis certaine que ça va plaire à énormément de gens. Le classement est 13 ans et plus. Moi, personnellement, je le mettrais à 16 parce que vraiment, on parle de choses assez intenses dès les premières minutes du film. Donc, si votre enfant de 13 ans n'est pas encore tout à fait familier avec la sexualité en général, c'est peut-être pas le bon moment d'aller voir un film. Vous allez avoir une couple de questions à la fin du visionnement.
C'est un jargon de Trip à 3, c'est ça?
Trip à 3 puis tout.
Puis tout. Merci beaucoup, Mélissa. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, bon, j'avais envie d'être en terrain connu. Alors hier, je vous ai amené Jean-Simon Buis, qui est mon collègue de Bouchard en parle. Et après la pause, je vous amène Pascal Cévé, qui est mon autre collègue de Bouchard en parle. Et même que plus tard, on va voir Vez. Fait que finalement, le seul à qui j'aurais pas parlé en fin de semaine, c'est bien Sylvain Bouchard. On parle à Pascal Cévé au retour de la pause.
Que Québec se lève.
De retour après la pause. Étoile 93.3 pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez Étoile 93.3. 93.3.
Pendant le solde des fêtes, louez le GMC Sierra 2018 édition Élévation à cabine double pour l'équivalent de $99 par semaine pendant 48 mois. Avec ses roues de 20 pouces et son habitacle super spacieux, vous allez rendre jaloux tous les Pères Noël de la région. Oh, oh, oh oui! Versement initial de $3,396, rabais de $1,000 sur demande de la carte Visa GM inclus, 104 paiements de $198 deux semaines, 16 sous du kilomètre après 20 000 km annuels. Détail à gmccanada.ca. GMC, calibre professionnel.
Pour le temps des fêtes, Aujourd'hui d'espoir aimerait vous offrir gratuitement le DVD du film de l'Évangile de Jean sur la vie de Jésus. Si vous êtes intéressé, complétez le formulaire en visitant lemomentdespoir.com ou appelez au 1-877-LESPOIR. Joyeuses fêtes.
Pour vos besoins en manutention, Chariot Élévateur du Québec vous offre des solutions efficaces adaptées à votre réalité. Gagnant choix du consommateur, Ville de Québec, secteur fournisseur d'équipements de manutention et fier distributeur des produits Yale. Toute l'équipe de CEQ vous souhaite de joyeuses fêtes.
Depuis 35 ans, Ciné-Cadeau à Télé-Québec, c'est...
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Ciné-Cadeau, c'est trois fois par jour, à 9h, 15h30 et 18h30. Ce soir, à 18h30, voyez les Croods. Télé-Québec, emballante et fière de l'être.
Les jeunes familles, du 2 au 6 janvier, au complexe Onco-Charny, c'est l'Espace Fun. Plus de 65 jeux, dont tyrolienne, trampoline, eurobungee, mur d'escalade, espace pour les tout-petits. Billets en pré-vente jusqu'au 24 décembre sur espacefun.ca. Une invitation du FM 93.
Une carte cadeau de la Bête Steakhouse. Le cadeau que tout le monde veut. Passez au Steakhouse La Bête, boulevard Laurier, ou commandez sur labête.ca. Offrez le cadeau qui se dévore. Le meilleur Steakhouse, c'est Bête de même.
En cette période de réjouissance, l'équipe de Roger Guillot, spécialiste en électricité, plomberie et chauffage, vous offre leurs meilleurs vœux de santé, paix et bonheur. De joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2018 de la part de toute l'équipe de Roger Guillot, orange et vert, vite comme l'éclair. RogerGuillot.ca.
Des bonbons à profusion, de fabuleux chocolats, 24 variétés de café arabica, une foule d'idées cadeaux. C'est ce que vous trouverez aux confiseries Pinoche. Des gâteries pour petits et grands depuis plus de 22 ans. Les confiseries Pinoche, avenue Cartier, Pinoche.ca.
Au cœur du quartier Saint-Sacrement, venez découvrir le Samuel Hollande. De grands appartements rénovés à louer avec la sécurité 24 heures sur 24 et toutes les commodités à même l'édifice. Pharmacie, épicerie, salon de coiffure, restaurant, dentiste et bien plus encore. Pour un temps limité, signez un bail de 24 mois et soyez à l'abri des augmentations. Certaines conditions s'appliquent, détails sur place. Offrez-vous la liberté et la simplicité au Samuel Hollande. Prenez rendez-vous dès maintenant au 431-0200.
On connaît déjà le groupe Kia Québec et Kia Sainte-Foy, mais ces jours-ci, on célèbre l'arrivée d'un troisième Kia à Val-Bélair, voisin du Saint-Hubert. 10 millions investis pour faire le premier concept architectural Red Cube à Québec. Une Kia, ça s'achète désormais aussi à Val-Bélair.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
À la demande générale, Julien Clerc est de retour au Grand Théâtre le 2 novembre 2018 en formule piano et cordes. Un spectacle exceptionnel où Julien Clerc reprendra ses plus grands succès. Julien Clerc au Grand Théâtre. Billets au julienclerc.ca. Une invitation du FM 93.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93. Jusqu'à 11h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève avec Élisabeth Crête.
FM 93.
La météo présentée par Desjardins Autocollection Lincoln. C'est l'événement La Liste de souhaits Lincoln. Recevez une offre exceptionnelle et un boni de 1 500 $ sur les Lincoln 9 sélectionnés. Desjardins Autocollection Lincoln à Vanier.
Il fait très très froid ce matin. On ressent moins 29 actuellement et c'est un maximum de moins 15 qui est prévu pour la journée. Par contre, c'est du soleil jusqu'à ce soir. Alors, très belle journée. Demain lundi, c'est nuageux avec un maximum de moins 11 degrés et mardi, pour l'instant, c'est un maximum de moins 1. Ça peut changer très souvent d'ici là, mais on prévoit de la neige quand même avec un maximum de moins 1. C'est exceptionnel compte tenu de la température qu'il fait présentement parce que c'est moins 19 à Québec. On a oublié de faire tirer quelque chose tantôt, Mélissa. C'est une paire de billets, je crois.
Oui, pour aller voir Daniel Lavoie, c'est le 23 mai 2018 au Grand Théâtre de Québec. On a des billets qui sont disponibles aussi sur le site Internet si vous voulez vous en procurer par vous-même. Mais on fait tirer à l'instant une paire de billets pour Daniel Lavoie le 23 mai prochain au Grand Théâtre de Québec, 670-9330. On prend le deuxième appel comme l'appel gagnant.
FM 93. Information, sport, showbiz, culturel. C'est Que Québec se lève.
Que Québec se lève jusqu'à 11h.
Au FM 93.
Il est 9h31. Je vous souhaite, dans la vie, de travailler dans un milieu de travail avec une équipe soudée et une équipe solidaire envers vous. Vous savez, je l'ai dit hier, c'était la première fois ce week-end que j'animais une émission seule et mon collègue Jean-Simon Buis s'est proposé de lui-même de venir me faire une critique du film Star Wars, ce qu'il a fait hier. Et ma collègue de semaine aussi, Pascal Caron-Vézina, Pascal CV qui est dans l'émission Bouchard en parle, s'est proposé aussi pour venir me présenter un dossier ce matin. Ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est une équipe solidaire. Allô, Pascal.
Salut.
Tu nous as même amené des croissants ce matin, comme oui. Une bonne ménagère.
Non, mais ils sont bons, là. T'es fait toi-même?
Ah oui, c'est, tu mets ça dans le four à 350.
Ben oui, t'as fait ça ce matin, c'est ça?
Oui, ce matin, tranquillement. Mais écoute, Élie, grosse fin de semaine, là, Noël s'en vient. Moi, c'est la première fois que je reçois dans le temps des fêtes. C'est de la job. Je suis chaud reçue parce que...
Oui, mais moi, je suis pas une bonne ménagère.
Non?
Non, j'aime pas faire à manger, mais oui, j'ai déjà reçu, puis oui, c'est de l'ouvrage.
Hey boy, je sais pas si c'est un contrat que je vais prendre l'an prochain.
Mais vous êtes combien?
On est au moins 20.
Oh,
au moins 20?
Oh, oui. Puis tu prépares la nourriture pour tous?
Oui.
Ah. Et là, est-ce que tu t'es inspiré de est-ce que quelqu'un t'a enseigné comment être une bonne ménagère pour pouvoir recevoir dans ce contexte-là?
Ben, c'est certain que on est quand même rendu à un âge où on a quelques techniques là, mais on y va avec une planification. Je fais rarement des listes là, mais là il y a une bonne liste.
Mais moi, ton
âge,
j'aimais ça, par exemple.
Oh oui, c'est le fun.
Oui, je trouvais ça le fun de nouvelles recettes. Oui, ça j'aimais ça.
Mais on travaille, hein. Fait que ça prend du temps.
Ça aussi. Pinterest.
Oui.
J'espère que tu l'utilises là. Il y a plein de recettes qui se font rapidement puis qui sont vraiment magnifiques pour mettre sur une table de Noël.
Assez vieux jeu, je t'allais avec les revues de Noël. Hein?
Ça fonctionne toujours, ça.
Et pendant que je faisais ça, ça prend quand même beaucoup de temps, on s'entend. Faut penser à tout, le ménage, faut penser à quand on reçoit des invités, parce qu'il y a aussi des gens qui vont dormir chez moi, alors leur lit, leur drap frais, la nourriture, va-t-il en avoir assez, l'entrée, le repas. Là, je me suis dit, aïe, il y a des femmes qui font et qui faisaient ça à longueur de journée. C'est un travail pour eux, là. Les femmes à la maison, c'est un travail. Et sérieusement, je les vénère parce que je pense que je trouve ça plus difficile que de travailler à la radio 40 heures semaine ou dans n'importe quel autre travail. Pour moi, c'est pas ma tasse de thé, bien qu'on le fasse avec beaucoup d'amour. Hein. Et je me suis rappelé il y a quelques années, puis ça me surprise que vous connaissiez pas vraiment ça, le guide de la parfaite ménagère. Alors, on se transporte dans les années 60.
Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner.
Johnny Hallyday qui nous a quittés hein, dernièrement. Alors, un petit souvenir de lui avec Laisse les filles en 1961. Et le guide de la parfaite ménagère qui est paru en 1960 dans un manuel scolaire d'économie domestique pour femmes.
Économie domestique pour femmes.
Manuel scolaire. Hein, on n'étudiait pas les choses qu'on étudie maintenant. Et bien, c'est inspiré de La parfaite ménagère qui a été écrite par deux femmes en 1938.
Oh là là!
Ça datait. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas replongée là-dedans. Je pense que ça va probablement vous faire rire un peu parce que les temps ont littéralement changé.
Qu'est-ce qu'on apprend dans ce guide-là? J'ai peur.
Élie, tu dois être prête. Hein? Oui. Il y a un paragraphe qui dit,
bien assise.
Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendue lorsqu'il rentre. Alors, on parle du mari, bien sûr. Retouchez, oui. Alors, retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante.
Arrête, t'es sérieux?
Une petite douche ici, je crois. Alors, il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjoués et un peu plus intéressantes que ces derniers.
C'est écrit, là, noir
c'est
sur
écrit,
blanc.
C'est écrit, noir sur blanc. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en quelque sorte qu'elle soit meilleure.
C'est pas une blague, hein, ce guide-là, en passant.
Non, pas du tout.
OK. Juste pour être sûr. Oh mon Dieu.
Pas du tout. Okay. Autre chose, ranger le désordre. Alors ça, j'ai expérimenté. C'était quelque chose d'assez intense. Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Alors, on fait un tour comme cela. Hein? Une salle de bain, salon, on regarde si tout est propre.
Rien qui traîne, tout est clean cut, en bon français.
On ramasse les livres scolaires, les jouets, les papiers et ensuite, passez un coup de chiffon à la poussière sur les tables.
Ah ben oui, absolument. Tous les jours, on fait ça.
Tous les jours avant qu'il rentre. Très important.
Oh mon Dieu.
Moi, c'est le avant qu'il rentre. Oui. Avant que monsieur, la majesté arrive.
Ça, que votre honneur rentre.
Ensuite, pendant les mois les plus froids de l'année, ben là, on est pas mal dedans. Hein? Alors, c'est très frais. On se chauffait au bois, hein, au foyer dans ce temps-là. Il faudra préparer et allumer un feu dans la cheminée auprès duquel il puisse se détendre.
Hein? On parle de lui à « il », je trouve ça vraiment drôle. « Il » avec un « i » majuscule, là, tu sais.
Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre, et cela vous rendra également heureuse.
Ah ben oui, c'est ça, oui.
Votre bonheur, c'est celui de « il ».
Exact.
Votre bonheur individuel n'existe plus.
En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Je ne sais pas pour vous, mais oui, je suis contente quand mon conjoint, mon chum, mon ami, n'importe qui est heureux, là, mais quand même, c'est pas le...
C'est d'autres sources de bonheur, mettons.
Exact, il y en a d'autres, Ah! Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Vous avez passé une mauvaise journée, les filles. Ça a été plus difficile. Les enfants ont été dérangeants, parce que quand même, je dis les enfants, on se transporte il y a quelques années. Eh bien, ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le souper ou même s'il reste dehors toute la nuit.
On ne sait pas où, puis demandez-y pas, il est où non plus.
Exact.
Là,
considérez cela comme un mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, hein, au goût quand même. Arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses chaussures.
Ah oui, c'est trop difficile pour monsieur d'enlever ses propres chaussures.
Ah, il a travaillé fort, il lit.
Ben oui, il n'y a plus de force. Hey. Il n'y a plus de force rendue à la maison.
Parlez-lui d'une voix douce, apaisante et plaisante. Clairement, je ne serai pas la femme pour lui. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité.
Non, jamais.
Jamais.
Il a toujours raison.
Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer. Absolument. Et en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté.
Ben c'est ridicule. Ça, c'est pas une blague. C'est un vrai guide. C'est qui exactement ces femmes-là qui lisaient ce guide-là? Est-ce que c'était donné à tout le monde? Là,
c'est un extrait d'un manuel scolaire. Donc, on enseignait à la femme d'être comme les derniers paragraphes que je vous ai mentionnés. C'est au Québec, effectivement. Publié en 1960. Et comme je vous dis, ça date de longtemps parce que c'est inspiré de 1938. Deux femmes qui avaient écrit ce manuel-là. Et ce n'est que quelques paragraphes là, que je vous lis. Là. Il y en a énormément. C'est tout qui est quelque chose.
Je trouve pas ça si loin que ça, moi, 1960. Non. On l'enseignait encore, là, c'est quelque chose de savoir qu'il y a à peine quelques années, on devait encore être soumise comme ça à notre mari. Mais c'est de là l'importance d'avoir eu, évidemment, des mouvements féministes et tout ça pour justement rendre la femme égale à l'homme. Mais là-dedans, on ressent une certaine domination, là, tu sais, un pouvoir d'être un homme par rapport à être une femme.
Mais 1938, à la limite, là, bon, c'est vrai que c'est une autre époque, mais 1960, on était en plein dans l'époque des baby boomers. Il me semble que c'est pas si lointain que ça. Et c'était encore enseigné à ce moment-là. C'est hallucinant. William, lui, j'imagine qu'il se sent très à l'aise avec ça, hein, de savoir que la femme était tellement soumise à son homme comme ça.
Ben oui, absolument.
Oui, très d'accord avec ça. Ah non, écoute, j'en reviens pas.
Pas trop, là, mais je peux pas me défendre. J'étais pas prêt seul dans mon clan.
Oui, Will, ça fait deux jours, effectivement, qu'il est le seul homme parmi...
C'est pas grave, c'est pas désagréable.
Mais j'en reviens pas, honnêtement, j'en reviens pas. Je peux pas croire.
Parlons de sexe. Paragraphe sur le sexe quand même. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, ça c'est le titre du paragraphe. Et il est important de vous rappeler que vœu de mariage et en particulier votre obligation est de lui obéir s'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, soyez guidé par les désirs de votre mari et ne faites en aucune façon pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. Ah, là, la femme a quand même, dans ce qu'on lit, un certain pouvoir là sur les relations intimes. Par contre, on doit vraiment le faire au moment où son mari le souhaite.
Hey, ça, honnêtement, là, c'est le genre de phrase qui ne passe pas du tout dans la société d'aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on a
bon
connu cette année.
Ben, oui, écoute, ça n'a pas de bon sens.
Non, écoute, ça, dans le contexte actuel, c'est une phrase qui est très, très sensible. En gros, c'est si votre mari, ça lui tente, ça vous tente vous aussi. Là.
Exactement. Et si ça vous tente et lui non, c'est non. Bon, ben, ça, quand même, c'est quand même de la tolérance, là,
ben, oui, c'est
du
ça.
Respect.
Lui, il peut dire non, mais la femme peut pas dire non, c'est ça? Et voilà.
Si votre mari suggère une quelconque pratique moins courante, montrez-vous obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soins pour les cheveux.
Ah ben, les gens ne devaient pas adhérer à ça là, entièrement. Là. Quelqu'un qui lisait ça là, à l'école, voyons donc.
Mais s'ils l'ont mis dans le manuel scolaire, c'est que ça a passé un certain consortium. Là, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas mettre ça et dire que ça n'a pas de bon sens de faire lire ça aux enfants. S'ils l'ont mis, c'est parce que ça avait été accepté. C'est accepté qu'on enseigne ce genre de choses-là aux femmes à ce moment-là. Là.
Mais j'aimerais ça
à
savoir.
À quel point, je ne sais pas. Là. Écoute, ça n'a pas de bon sens.
Ben...
Moi, je suis arrivée en économie familiale ou éducation familiale. Là. J'étais comme sur la fin là, des personnes là, qui ont suivi ces cours-là. Puis on était dans les années 90. Là, on apprenait à faire de la soupe puis des boxeurs. Fait que
ben,
là, tu dis,
ça,
là, dans l'espace de 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas, le 1960, là, c'est quand même proche, là.
Ben oui. Puis à quel moment il y a une femme qui a levé la main puis dire excusez, c'est parce que ça n'a pas de bon sens.
Ben, il y en a certainement qui l'ont fait, là. Parce ça, je ne peux pas croire.
Parce
là.
Que maintenant, c'est totalement différent. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait. On connaît quand même.
On arrive de loin.
Oui, mais à quel moment, en quelle année, il y a une femme qui a dit là, c'est assez. Je veux dire, même en 1960, c'est pas des choses qui sont acceptables, ça, là.
Pas du tout.
Eh, j'en reviens pas. Ça a vraiment existé, ce guide-là. J'avais jamais entendu parler de ça.
Mais tu vois, c'est pas étonnant qu'il y ait un bon nombre de personnes qui n'aient pas dénoncé des agressions sexuelles non plus dans ces années-là. Tu sais, que ça sorte plus tard, comme ça, il y a des dénonciations depuis, mettons, 1980-90.
Ah, c'est un bon point.
À cette époque-là, là, si tu apprends ça à l'école, imagine là, quand ça arrive là, pour vrai, puis t'es non consentant, parce que la notion de consentement là-dedans, là, c'est zéro.
Ah
là.
Non, puis c'est un très, très bon point que toi, parce qu'une des choses qui est sortie beaucoup dans les derniers mois, c'est lorsque des femmes dénonçaient après plusieurs années, on en a vu après des 20, 30, mm-hmm. même 40 ans, c'est pourquoi vous avez pas dénoncé avant. Mais dans un contexte social comme celui que Pascal nous décrit là, j'ai pas envie de dénoncer non plus.
Ben non,
on m'enseigne à dire oui quand lui, il veut. On m'enseigne à n'importe quelle pratique qu'il veut faire, tu dois lui obéir. Puis manifeste-lui ton mécontentement, mais dans le silence.
Non, c'est
voyons
ça.
Donc.
Puis un homme qui lit ça, il est mort de rire.
Ben, mais-en. Mm. Mais-en. Ah non, écoute, puis Dieu merci, honnêtement, la société a changé, là, on s'entend. Puis des hommes qui pensent comme ça, je pense qu'il y en a, ben, je dirais pas zéro, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et les femmes ont pris leur place. Et merci à toutes ces femmes qui se sont battues, parce que je peux pas croire qu'on serait dans un contexte social comme celui-là aujourd'hui, là.
Surtout que c'est ce qu'on apprenait. Et si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est rapide, là. Il y en a plusieurs livres comme ça. Celui que je vous parle, La parfaite ménagère de 1938, est paru dans les éditions Larousse. C'est un livre rare, mais on est quand même capable de retomber déçu. Ça se vend encore, là, certains détaillants. Sinon, il y a comment bien entretenir le foyer, comment être une bonne épouse. Il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs sortes ou de types de livres de ce genre-là qui sont parus, là.
Bon, c'est assez intéressant. Alors, ceux qui sont dans la préparation du temps des fêtes ou qui vont recevoir comme Pascal, ne lisez pas ces conseils-là, hein. Allez-y avec votre instinct. Je pense que ça va beaucoup mieux vous servir que ça.
Des petits croissants, ça fait toujours du bien.
Oui, c'est vrai.
Sur ce, je retourne faire ma parfaite ménagère à la maison parce que Noël arrive bientôt.
Merci beaucoup, Pascal. On prend une courte pause et au retour, c'est Marc Boileau qui est avec nous.
Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Bonsoir les sportifs.
En conversation avec Philippe Cotin. Tu as écouté l'entrevue avec Jeff Monson. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange?
J'aurais aimé Ron un petit peu plus de mordant quand même. Je l'ai trouvé beaucoup trop optimiste. J'ai trouvé qu'il ne me semblait pas totalement connecté à la situation du Canadien à l'heure actuelle. Le Canadien demeure dans le pétrin. Quand il dit ça va beaucoup mieux, puis imaginez si on avait paniqué, c'est parce que le Canadien vient de perdre 3 matchs de suite. Là.
Bonsoir les sportifs. En semaine dès 20h30 au FM 93.
L'an dernier, 51% des Québécois auraient dépassé leur budget des fêtes. Pour éviter ça cette année, vos concessionnaires Toyota vous offrent 1 500 $ de remise à l'achat ou à la location du CHR XLE de base 2018. Gâtez votre chat kiki en toute quiétude. Ça fait plaisir, Toyota.
Pour célébrer le temps des fêtes, Ashton vous offre un petit cadeau rempli de saveurs. La poutine de Noël avec sa garniture gratuite aux couleurs des fêtes. Profitez-en, ça arrive juste une fois par année.
Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
Oh, je suis donc ben fin, moi. J'aurais pas dû. Comment j'ai pu savoir que c'était exactement ça que je voulais? En plus, j'ai même pas été sage cette année. Et que je t'aime, moi.
Vidéotron vous offre Google Pixel 2 à 0$ avec certains forfaits et un étui personnalisable de Google d'une valeur de $65 en prime. Faites vite, l'offre se termine mardi. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Bureau en gros, c'est ce que vous voulez. Deux choses. Un cadeau exceptionnel à super bas prix. Alors Bureau en gros offre des articles nouveaux et branchés jour après jour. Et des bas prix garantis. Des ordinateurs portatifs, assistants vocaux, téléphones intelligents déverrouillés, jeux sur PC, casques d'écoute, cadeaux avec photos et plus à bas prix garantis. Pour tout ce qu'ils veulent vraiment, vous voulez vraiment, Bureau en gros. Des cadeaux qu'ils aimeront à des prix que vous aimerez.
Les calendriers express personnalisés avec photos sont à 40% de rabais. Créez les vôtres sur impressionbureauengros.ca.
Chez Super C, on pense que vous avez le droit de payer moins cher pour de la bonne viande de qualité et aussi que vous avez le droit d'exiger des fruits et légumes frais qui restent croquants longtemps. C'est pour ça qu'on garantit la fraîcheur de nos produits. Et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse au complet plus 10%. En plus, jusqu'au 20 décembre chez Super C, le bœuf haché mi-maigre format économique est au prix exceptionnel de 2,49 $ la livre. Profitez-en! Super C, beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca.
Au marché Jean Talon, 7 jours sur 7, vous trouverez de tout pour tout le monde, neuf et usagé.
Quincaillerie, bijouterie, informatique, robe de soirée, jouets, jeux vidéo, pièces d'auto, lingerie, mini VTT, boutique cellulaire, outils, tissus, boutique coquine, ordi, DVD, vêtements, déco et tellement plus.
Plus de 450 commerçants ouverts 7 jours. Marchéjeantalon.com.
Depuis le temps que vous en rêvez, démarrez-vous enfin en affaires. Pensez à Parfait Ménage. Succès garanti et ils vous assurent un support continu. Ils ont quelques territoires actuellement disponibles. Faites vite avant qu'il s'envole. Rendez-vous sur parfaitménage.net. Parfait Ménage.
Vous êtes des milliers, comme moi, à avoir adopté Griffe Cuisine.
Ils ont une grande salle de monde pour vous offrir plus de cuisine, plus d'accessoires, plus d'innovation pour optimiser l'espace.
Et les designers sont vraiment exceptionnels.
Vous pouvez même visiter l'usine de Griffe Cuisine à Saint-Augustin.
GriffeCuisine.com.
Éric Saint-Onge, propriétaire de 5 Domino's Pizza à Québec et toute son équipe, m'ont chargé de vous souhaiter de joyeuses fêtes en leur nom. Ils sont fiers de collaborer au Noël Cogeco pour embellir le Noël de plusieurs enfants de la région de Québec.
Joyeuses fêtes et bonne année 2018 de la part de vos Domino's Pizza.
Tiens, ton cadeau.
Wow! Jusqu'à 5 000 $ de rabais sur les 2017 ou tôt à partir de 0% et 90 jours sans paiement. Tu me gâtes, Paquette Mitsubishi.
Déballez votre Mitsubishi et tellement plus. Détails chez Paquette à Lévis.
Retrouvez le plaisir de sourire grâce à Sirois Denturologiste. Pour tous vos besoins en prothèses dentaires, venez rencontrer Jean-Sébastien Sirois. La consultation est gratuite. Toute l'équipe de Sirois Denturologiste vous souhaite de très belles fêtes. SiroisDenturologiste.com.
Le FM 93 est là pour vous partout. Une grande radio. FM 93. L'actualité sans compromis. Jusqu'à 11h, vous écoutez Que Québec se lève avec Élisabeth Crête. Élisabeth Crête réveille les gens de Québec. Au FM 93. Que Québec se lève.
Épître à Que Québec se lève par Saint-Marc Voilà.
FM 93.
Le collègue Marc Bollard a demandé à ce que Pascal CV reste en studio pour sa chronique. J'ai l'impression que les femmes vont en manger toute une dans les prochaines
pas
minutes.
Tout. Oh, pas du okay, tout. D'accord. Pas du tout, non. C'est parce que je parle avec vous autres. D'abord, très bon matin à mes amis. Eux, surtout, pauvre Will d'Olive. Mais je veux vraiment, c'est parce que c'est, je vous amène à un point pour lequel je veux vraiment avoir vos observations parce que ça fait longtemps que je le vois. Mais je me dis, c'est juste moi qui le vois. Tu sais, des fois, ce qu'on appelle la familiarité, on pense que ce qu'on voit, c'est que tout le monde le voit, puis c'est juste toi. Avez-vous l'impression, comme moi, que plus que jamais, les filles de 20 à 30 ans boivent plus d'alcool qu'avant, voire plus que les gars?
Plus qu'avant, peut-être. Plus que les gars, je dirais pas ça, par exemple.
Moi non plus, parce que j'ai des gars dans mon entourage que je serais pas capable d'accoter.
Mais ils sont peut-être plus show-off, par exemple, que les gars, là. Je sais pas sur quoi tu te bases, en fait, pour dire ça. C'est-tu sur des
deux choses, ouais. Deux choses sur les Simones.
Ah.
Les Simones, ça boit comme des déchaînés, oui, puis je me dis, c'est un, je crois que c'est une traduction réelle de quelque chose. J'ai une théorie en dessous de ça, tu t'en doutes. Et sur Instagram, il y a vraiment un paquet Il y a un réflexe de fille que j'avais jamais vu avant, qui est de poser son drink tout le temps, puis de faire des petites stories de drink, puis de drink, puis de bouteille. Je vois vraiment des filles plus jeunes qui sont vraiment extrêmement crinquées de poser leur drink. Je me dis, quel gars pose ses drinks?
Mais non, j'ai deux questions.
Sur Instagram aussi.
Moi, c'est ça, j'ai deux questions pour toi. Tu te réfères à quelle époque? Parce que si je remonte à mes parents, moi, je pense qu'ils buvaient tout autant. Je parle des femmes. Puis l'autre chose, c'est que peut-être les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'il y a plus de visibilité sur la consommation d'alcool. Parce que là, on met des stories, on est content de montrer ce qu'on fait, puis il y a de l'alcool dans nos soirées.
Comment ça se peut, très bien, c'est pour ça que je pose la question. Comment vous expliquez la consommation des filles dans les Simone, qui est quand même, genre, on a rarement vu ça, là.
Mais moi, honnêtement, j'ai trouvé ça un petit peu caricatural, l'émission Les Simone. J'ai adoré ça, puis je l'ai suivi du début à la fin. Puis s'il y a une prochaine saison, c'est certain que je vais la suivre aussi. Par contre, je me suis pas du tout reconnue, ni moi, ni mon entourage, dans la vie de ces trois filles-là. J'ai l'impression que c'était une très, très grosse caricature, avec certains éléments de réalité, mais ça reste une série qui était très, très bonne. Mais je peux pas dire que j'ai trouvé que ça reflétait bien la réalité.
Vous autres, dans votre groupe, là, parce que moi, j'agis vraiment comme quelqu'un de National Geographic. Là. J'en connais pas tant des filles de vos âges, à part vous autres avec qui je travaille. Mais ma question, c'est quand je vois ça, est-ce que c'est une tendance que vous remarquez dans votre cercle d'amis? Avez-vous l'impression que beaucoup de filles qui ont le coude qui lève plus facilement que ce que vous pouvez inférer de voir dans des amis plus vieilles, par exemple?
Je vais t'exposer une différence majeure que je vois entre les hommes et les femmes. Par contre, c'est vrai que les femmes vont toujours avoir un verre à la main ou un verre de vin ou un cocktail lors d'une soirée. Par contre, elles vont savoir où s'arrêter, à l'opposé des gars, où j'ai l'impression que les gars vont beaucoup plus dépasser les bornes que les filles. Je peux dire ça comme ça. Dans un bar, je vais remarquer beaucoup plus d'hommes en état d'ébriété avancée que les femmes, disons. Fait que peut-être, mais je pense que les femmes sont plus show-off que les gars.
Femmes, c'est peut-être ça, moi, qui fait que tout à coup, mon œil a comme remarqué de quoi. Il y a peut-être un côté plus show-off. De voici mon breuvage, etc., blablabla.
Oui, voici, je suis cool, je suis dans un bar actuellement et puis j'ai un verre à la main. Là. Mais est-ce que ça veut dire que ce verre-là, il a été terminé premièrement puis qu'il y en a eu d'autres par la suite? Ça, je sais pas.
Et là, tu as évoqué une catégorie d'âge, Marc, qui est de 20-30 ans. Mais c'est sûr que plus on vieillit, si moi je regarde mon entourage, quand tu as des enfants, tout ça, puis qu'à 6 heures le matin, tout le monde est debout, là, le lendemain matin, tu es peut-être un peu moins porté à exagérer, en fait, sur la quantité d'alcool que tu bois le vendredi et le samedi soir. Moi, je pense qu'il y a clairement une différence aussi dans cette catégorie-là d'âge.
J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de différence pour le sexe tant que ça. C'est aussi des circonstances, des personnalités. Tu sais, il y a des soupers. Moi, la fin de semaine, les soupers de fin de semaine, je bois pas, là. Je travaille le lendemain matin. Tu sais, je vais prendre peut-être une coupe de vin, mais j'en prends jamais 10, là. Mais je veux dire, t'es plus contrôlé, fait que les gens peut-être en semaine en boivent ou quand ils sont dans un contexte de fête, peut-être que les filles boivent plus quand elles sont avec leur chum de filles dans un souper normal.
Mais je pense pas qu'une fille comme Mélissa ou une fille comme moi, on est représentative des filles de notre âge parce qu'on boit vraiment pas beaucoup. Ouais. Et je pense de façon à l'extrême, on boit vraiment pas beaucoup. La plupart de mes amies vont quand même prendre un verre ou deux dans la plupart des soirées où elles vont aller, contrairement à moi. Par contre, j'ai pas beaucoup d'amis qui vont se saouler. Beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est. Tu comprends? Non, c'est vrai, ils vont savoir.
Non, mais c'est ça la question.
Oui, c'est vrai. Tandis que les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont plus sur le party de là à dépasser les bornes que les femmes. Et peut-être que toute c'est une question d'entourage aussi.
Toutes leurs soirées sportives, là, qui prennent de la bière en chum, là.
Oui,
nous,
c'est vrai.
On écoute le Victoria Fashion Show, puis on. Victoria Secret Fashion Show, puis on se sent mal de manger de la crème glacée, tu sais.
Mais Marc, c'est drôle, la tranche d'âge que tu as choisi, par exemple, pour l'exposer, tu as parlé de 20 à 30 ans. Moi, j'ai l'impression que les femmes, disons, de 30 à 40 ans, qui commencent à avoir des enfants, là, qui travaillent à temps plein, qui sont propriétaires d'une maison, là, une belle petite vie de famille. J'ai l'impression que ces femmes-là vont être plus portées à prendre un seul verre de vin, mais chaque soir de la semaine, disons.
Oui,
plus
ça,
que
je
les.
Crois. Oui, je suis absolument convaincue.
C'est que moi, la théorie que j'ai en dessous de ça, puis sérieusement, ça m'intéresse beaucoup. Ma théorie, c'est que je crois que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vie des filles aujourd'hui, donc que tu prennes 20 ans, 30 ans, etc., mais plus jeune que plus vieux, là, est plus difficile que celle de leur mère, est pas plus facile. Et j'ai l'impression que l'alcool, c'est un peu une façon aussi de relaxer, de se dégager, qui était pas aussi présent. Mais c'est une théorie.
Plus difficile comment?
Plus difficile. C'est plus exigeant être une fille aujourd'hui. C'est plus exigeant.
Dans quelle mesure, tu veux
tout,
dire?
Tout, parce que vous avez des vies de gars et des vies de filles. Vous vous êtes donné le droit d'avoir maintenant une vie de gars en option. Mais vous avez encore une vie de fille.
Est-ce que tu es en train de dire qu'on devrait attendre notre mari avec un foyer allumé?
Non, moi je prétends rien. Je fais juste dire que, c'est de la logique, là, c'est de l'observation crasse et banale que je fais. Avant, là, une fille, c'était comme tu viens de le décrire. Il y avait une vie de fille, puis c'était une vie de fille d'attitude, elle était stéréotypée. après, là, il y a eu l'avènement féministe, etc., libération sexuelle. C'est devenu plus large. C'est-à-dire qu'une fille peut être aujourd'hui célibataire, avoir une décapotable, un condo dans le centre-ville, être ingénieure, tu comprends, un peu tout ça. Et aussi être encore une fille, c'est-à-dire vouloir des enfants, etc. Mais je vois que j'ai l'impression que tout ça, c'est plus complexe que quand il y avait juste un couloir. Mais pour tout le monde, mais pour les filles, on dirait que la vie est rendue plus compliquée.
Mais
c'est juste ça que je dis.
Mais c'est drôle. Moi, j'ai l'impression que la vie des femmes avant était beaucoup plus difficile que celle qu'on a présentement. Les tâches que tu avais à accomplir dans une journée, il me semble que c'était beaucoup plus nombreux que ce qu'on a présentement. Puis en plus, tu n'étais pas nécessairement toujours heureuse dans ta vie. Aujourd'hui, on a l'option de pouvoir choisir ce qu'on veut faire dans la vie et ce qui va nous rendre heureux. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a facile en maudit, les femmes d'aujourd'hui, là. Vraiment.
Puis je te dirais, Marc, là, on a trois filles dans la vingtaine autour de la table, puis ils sourcillent toutes un peu.
Non, mais moi, ce que j'avance, c'est pour vous entendre. Là,
oui, non, ben c'est ça.
Tu vois, regarde, au-delà des observations, il y a une étude pour vrai, OK? Au-delà de tout ça, là, on va pousser même l'enquête une coche plus loin. Dans Le Monde, il y a deux semaines, c'est un journal moi, que je lis fréquemment, un journal français que j'aime beaucoup. Dans Le Monde, il y avait vraiment une étude qui disait que ça prend un an pour qu'une fille se tanne sexuellement quand t'es en couple avec son conjoint.
Ah oui?
Et que c'est, ouais. Et selon cette étude-là, ça serait plus rapide que les gars. Ce qu'on aurait pu dire, ah, stéréotype, non, les gars, ça va tout le temps regarder partout. Il semblerait, alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un fondement qui résonne chez vous à cet effet-là? Est-ce qu'effectivement, le stéréotype de la fille amoureuse toute sa vie, etc., c'est-tu moins vrai qu'on pense?
Ben, c'est-tu quoi le problème avec les relations aujourd'hui, puis en général, autant du côté des gars et des filles, c'est les options. Le nombre d'options que tu as, que tu n'avais pas auparavant. Tu sais, aujourd'hui, on a le loisir de pouvoir se tanner après un an. Non, mais c'est vrai.
Avant, je te suis.
Tu sais, t'as tellement d'occasions de rencontrer. Non, je sais, c'est spécial. Mais t'as tellement d'options aujourd'hui pour rencontrer. On est envahi par des options autour de nous. Non, là, je parle des applications, je parle des sites de rencontres, je parle des relations humain à humain aussi, je veux dire, en face à face. Tu peux sortir dans un bar ou un restaurant et rencontrer des gens. Avant, rencontrer, c'était pas facile. Aujourd'hui, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Marc, que ça n'a jamais été aussi facile de rencontrer un gars, là, ou rencontrer une femme.
C'est-à-dire que ce que moi j'appelle la première vitesse est rendue quasiment automatisée, là. Mais la deuxième vitesse, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, parce que t'as beau dire qu'il s'est créé l'équivalent d'un entremetteur, ça s'appelle les applications, les sites de rencontres. Et c'est un peu comme j'ai quelqu'un de présenté avant, maintenant c'est sur Internet, t'es d'accord?
Oui.
Bon, mais il reste qu'après ça, dans la vraie vie, il faut que tu rencontres quelqu'un. Ça, je crois que personne est maintenant, à cause de ça, plus habile qu'avant. La vraie première date, là, je pense qu'est autant un challenge qu'avant.
Mais Marc, moi, par rapport à ton
Et puis ça concerne tout le monde. Oui. Tu peux avoir 52 ans, 4 enfants, mais si tu viens de te divorcer, tu retournes dans cette zone-là encore, tu comprends?
Marc, par rapport à ton article, moi, ce que je suppose, c'est que la femme pourrait peut-être se tanner avant, parce que la femme, souvent, quand elle est en couple, au niveau du sexe, elle a besoin d'une ambiance, elle a besoin d'un rapport émotif, elle a besoin de quelque chose qui va au-delà de fritiller ou fricoter juste le sexe là pour avoir une excitation. Oui. J'ai l'impression qu'après un an, si cette flamme-là s'est éteinte, si ça n'a pas été entretenu, il y a un point de non-retour, tandis que l'homme, physiquement, ça fonctionne encore. J'ai l'impression que l'homme n'est pas aussi impliqué émotivement et que c'est pour ça que lui ne se tanne pas sexuellement plus aussi rapidement que la femme.
Ça veut dire que les conditions gagnantes, pour reprendre Jacques Parizeau, les conditions gagnantes, t'as l'impression qu'il s'effrite peut-être plus vite pour ce qui est gagnant chez une fille, pour pouvoir dire « je reste crinqué ».
Ben chez une fille, si le motif n'est pas encouragé à chaque relation sexuelle, je pense qu'elle va pouvoir se tanner plus rapidement, puis qu'il y a un point de non-retour comme « ben tu m'attires plus parce que sexuellement, il n'y a plus la chimie qu'on avait ». Tandis que pour l'homme, ben tu as juste un peu de stimulation, puis normalement, ça fonctionne.
Ouais, puis si en plus le couple ne va pas si bien que ça, exact. Après un an, ben automatiquement, le sexe va être impliqué là-dedans, puis ça va, le côté sexuel de la relation va en souffrir finalement. Tandis qu'un homme, je pense que ça peut mal aller avec ta blonde, mais tu peux quand même être excité sexuellement par elle. Là, tu comprends?
Je comprends.
Filles, je trouve ça plus difficile un petit peu.
Fait que finalement, Marc, c'est plus difficile d'être un homme aujourd'hui qu'une femme.
Très difficile d'être un homme.
Ben, moi, je l'ai jamais vécu de même. Je vais être franc avec vous autres. J'ai jamais trouvé ça, mais j'ai l'impression que tout est un peu plus complexe. Ma mère me dit souvent, j'aurais pas voulu être une fille aujourd'hui de 20 ans.
Donc.
Oui. Ah oui? Ah,
oui. Parce que, c'est pour une question super simple, puis elle a entièrement raison de cet aspect-là. Elle parlait pas de sa vie au complet. Elle disait, moi, dans mon temps, ça n'existait pas la question « veux-tu juste coucher avec moi? » S'il voulait coucher avec moi, il me mariait.
C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. J'avais pas pensé à ce côté-là, c'est vrai. Hein, c'est vrai, maintenant, c'est, mais les hommes, c'est vrai, à l'époque, tu rencontrais une femme, l'aspect one night.
Ben, dis-moi, j'ai fréquenté plein de gars, puis ça passait même pas proche. Puis à un moment donné, il y en a un que j'aimais plus que les autres, puis on s'est mariés, puis c'est tout. C'était terminé, c'était le même.
Mais c'était longtemps après, si ça marchait pas, par exemple.
Ah ben, ça c'est une autre affaire. Dans son cas, elle a été mariée très heureuse pendant très, très, très longtemps. Puis voilà, donc, puis ses amis autour aussi. Parce que ça, c'est l'autre affaire. À un moment donné, moi, j'ai lu, avez-vous lu le livre de... Tu me dis, tu me coupes, hein, Elisabeth, si on n'a plus de temps, là.
Non,
moi,
mais
sinon, j'arrêterai jamais, mais...
Non, vas-y.
J'ai lu le livre « Ma vie en trois actes » de Jeannette Bertrand.
Oui.
Et puis, c'est très intéressant. Puis elle, c'est peut-être, en tout cas, vous êtes probablement pas au courant dû à votre jeune âge, mais pendant 16 ans de temps, elle a eu le Courrier du cœur dans le Journal de Montréal.
Oh oui, non, c'est vrai.
Bon,
oui.
Dans les années 60, à peu près 60-70, 16 ans de temps. Puis elle dit, c'est là que j'ai commencé à être une militante féministe parce ouais. que je me faisais écrire des affaires épouvantables. Sauf que, moi, ce à quoi je réponds, mais je doute pas de ce qu'elle dit, mais ma mère, moi, elle a eu une vie, là, qu'elle a adorée. Il n'y a pas de danger qu'elle ait écrit à Jeannette Bertrand. Il aurait juste dit, ah, mon dernier, il a gagné son match de soccer, Joe va venir de travailler, c'est le fun. Elle n'avait pas de drame
c'est
à parler.
C'est plutôt banal, en fait.
Voilà.
La vie au quotidien. Ouais,
voilà.
C'est vrai.
Voilà.
Mais je vais terminer là-dessus, Marc, par exemple. Il y a une chose pour laquelle c'est plus difficile d'être une femme de 20 ans aujourd'hui que ce l'était, c'est la pression sociale que t'as d'être cool, entre guillemets. Avant, t'avais pas les Instagram de tout le monde et les Facebook de tout le monde pour voir ce qu'on faisait, pour revoir les activités qu'ils faisaient dans une journée, pour voir à quel point il y avait du beau linge, à quel point il y avait le plus beau chum, le plus si. Non, mais c'est vrai, tu sais.
Peut-être.
La vie des autres n'étaient pas exposées comme elle l'est aujourd'hui. Fait que je pense que la pression des jeunes filles d'être cool et d'être belle et d'être plus ci et plus ça parce que les gens vont...
Ça, tu dirais que c'est réel. C'est une vraie nouvelle pression.
Ah oui, juste professionnellement, des fois, ça peut t'apporter des avantages et des désavantages que tu sois pas assez cool pour la société.
Oui, oui, c'est vrai. Fait que non, pour ça, je pense que c'est plus difficile d'être une fille, mais surtout le reste, là. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'on l'a facile aujourd'hui, les femmes, comparé à ce que d'autres ont vécu.
Je sais pas si tous les auditeurs sont d'accord. Ce serait le fun d'avoir leur feedback.
Ben oui, studio commercial fm93.com ou 25.